de retour sur les ondes de Canal Sud
avec Luca et Kat des éditions Aïe Aïe Aïe. Et donc, on vient d'écouter Suzanne Végaï.
Véga, ouais.
Ouais, Végaï, ouais.
Végaï.
Bon, c'est pour la blague, mais raté.
Ouais, non, c'est... Ça, c'est le genre de perche qu'on loupe, tu vois.
Ouais. Ouais. Suzanne Végaï, ouais.
Merci
Suzanne
pour Végaï.
Ouais. Tom's Dinner.
Ouais.
Ouais. Mais en fait, on avait proposé ce petit son. Parce que elle parle, donc du coup elle rentre dans un restaurant, le restaurant de Tom, où elle raconte un peu ce qui s'y passe, et c'est un peu comme ça qu'on perçoit aussi les actions d'Aïe Aïe Aïe dans notre travail en ce moment, où on va rencontrer des gens autour du repas et on va avoir tout un contexte autour du repas lui-même, mais aussi de leur vie, de leur point de vue, de leur culture de foyer, ce genre de choses. Et justement, ça nous amène à vous raconter ce qu'on est en train de vivre, qui est assez incroyable. C'est une résidence à Fiac, en ce moment, avec la Fiac, ce qui est assez drôle pour le coup, où on est invité à aller manger chez des gens, et on s'invite à aller manger chez des gens pour découvrir leur manière de manger, qu'ils partagent un repas ensemble, qu'on puisse parler avec eux de leur vie. Et on va faire une petite édition là-dessus à la fin avec un repas. Où cette fois-ci, ce sera nous qui les inviterons à manger et où on pourra leur distribuer une
édition. En tout cas, rentrez pas peut-être dans confier, je sais pas, votre recette d'ail,
c'est pas
tunisien, marocain, algérien.
Moi, je dirais qu'on va pas faire ça.
Game over.
Dans le début de la saison.
Parce que le meilleur, c'est le
genre.
Ah mon dieu.
C'est des pâtes aïe olio, d'une simplicité, aïe huile, des fois si j'ai envie un peu d'anchois, jus de citron et des fois de la chapelure de pain. C'est un peu le truc que je fais quand j'ai pas le temps et quand j'ai rien dans le frigo et ça marche toujours quoi.
C'est vrai.
J'ai vu qu'elle pouvait être rôtie, il y a de l'ail noir, de l'ail confit.
L'ail en chemise, c'est quand on laisse la feuille autour et qu'on la met au four, et en fait ça va le rendre tout tendre, il va rester dedans, il est dans sa chemise, tout crémeux, et ça se tartine sur le pain, c'est avec des petites pommes de terre au four, oh là là,
c'est trop
un délice.
Trop...
Il y a l'aïoli évidemment, alors pareil, hein, c'est comme le couscous, si on faut pas se lancer dans qui fait la meilleure aïoli.
C'est toi qui ouvre tous les débats problématiques.
Vous avez une recette d'aïoli ou...
Ma sœur en fait un délicieux, ouais. Donc du coup, je n'ai jamais eu à le faire. Elle m'a toujours fait un aïoli fantastique. Mais j'ai découvert il n'y a pas longtemps un aïoli sans œufs.
Ok.
Ouais, où c'est vraiment juste avec de la pâte d'ail et beaucoup d'huile. Et je crois qu'il y a un petit peu de moutarde, mais je ne suis pas sûre. Mais je suis pressée de l'essayer.
Ça a l'air sympa.
Ouais.
Pour votre livre, vous avez été trouvé où toutes ces recettes d'ailleurs?
Ben là, pour le coup, notre livre de recettes, on l'a appelé « Nous sommes » parce que c'est des recettes qui nous représentent beaucoup. C'est des recettes qu'on a depuis longtemps, qu'on a testées sur nos amis, que nos familles faisaient. Par exemple, moi, le tien, c'est ma mère, absolument. Et toi, il y a une des recettes qui vient de ta grand-mère, je crois.
Ouais, beaucoup. Enfin, moi, la plupart des trucs que je sais en cuisine, c'est ma grand-mère. Hein. Typiquement, ouais. J'ai vraiment pas inventé l'eau chaude. Mais du coup, c'était une manière, en fait, de se présenter. C'est pour ça que ça s'appelle « Nous sommes ». Avant de pouvoir éditer d'autres choses, des projets plus protéiformes, des projets aussi où on invite les gens et où nous on les met en avant. Là, c'était un peu un premier projet pour dire voilà, ça c'est nous, premier jalon avant la suite.
Et ce sera toujours à base d'ail.
Ouais. Et puis ça sera pas du tout toujours à la base d'ail. Hein. Aïe, c'est un peu notre nom et notre base, mais c'est surtout.
Il y a aussi de l'oignon.
Ouais, c'est ça.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, mais je crois que les jalons de ce projet, c'est vraiment la cuisine et. L'écriture de manière très large.
Après, pour le coup, j'avoue, je trouve que c'est très difficile d'imaginer une recette sans oignons et sans ail.
Ouais, ça c'est du goût perso, mais c'est vrai que, ouais, au moins sans ail, pour moi, c'est compliqué.
Ouais.
Mais vous, la cuisine, ça prend quelle place dans votre vie personnelle, en fait? Tous les jours, vous cuisinez, en fait, c'est quelque chose de vraiment important pour vous. Vous mangez, d'ailleurs, vous mangez assis, je sais pas, assise, vous êtes debout quand vous mangez.
C'est drôle, c'est trop marrant.
En tout cas, moi, je mange assis, personnellement. Ouais, je crois que j'essaie de cuisiner à peu près tous les jours, mais la vie va un peu à 1000 à l'heure, donc des fois, je cuisine des trucs dont je suis pas spécialement fier. Mais dès que j'en ai l'occasion, je crois que je prends plus de plaisir à cuisiner pour les autres et mettre de l'énergie à faire quelque chose de beau et de bon pour qu'on puisse le partager, quoi. C'est vrai que on a beaucoup de copains aussi qui sont très fans de cuisine, et pourtant ce projet, il est né entre nous deux. Je crois que ça vient aussi du fait que on a tous les deux été baignés à un moment ou à un autre dans la gastronomie, ou en tout cas dans la pratique de la cuisine professionnelle. moi qui m'a un peu dégoûté. J'ai bossé en resto, j'étais en salle, j'étais en épicerie quand j'étais ado et jeune adulte, quand je bossais dans le nord-est de la France. Et c'est un monde qui m'a un peu dégoûté du patronat, de la hiérarchie. En tout cas, je suis tombé dans des cuisines où je ne l'ai pas très bien vécu, où je trouve qu'il y avait beaucoup de violence. Et du coup, c'est une manière, je crois, pour nous, en tout cas pour moi, à ma place, de me réapproprier un domaine sans cette hiérarchie, avec un regard plus horizontal, plus lié à la poésie, pour le coup, dans l'édition. Mais ouais, il y a toujours ce rapport-là dichotomique duquel on vient tous les deux, en fait, du monde de la restauration, et de vouloir le réapproprier d'une autre manière.
Ce qui ressort de tous les témoignages que j'ai pu recueillir, c'est le caractère systémique des violences, c'est-à-dire pas systématique, donc je ne suis pas en train de dire que tous les chefs sont violents, dans tous les restaurants il y a des violences, mais systémique, c'est-à-dire qu'effectivement c'est normalisé, minimisé, toléré, voire c'est encouragé, et on estime en fait que les violences sont un gage d'excellence. Donc il y a vraiment cette idée que c'est un système. Moi, les gens qui me parlent me disent, dès la formation, j'ai été victime de violence. Et ou témoin de violence. Et surtout, on m'a dit, la cuisine, c'est ça. Si t'es pas content, on va faire autre chose. Dès la formation, on normalise les violences, voire on les encourage. Et ce qui se passe quand on fait ça, c'est qu'on crée une forme de tabou. En cuisine, il y a un système qui est très très vertical. Tout le monde commence en bas de l'échelle. Une forme de méritocratie aussi qu'on vend aux jeunes qui commencent. On leur dit, tu vas grimper les échelons. Pour ça, tu vas en chier, parce que j'en ai chié. Et celui qui dit ça, c'est le chef. Le chef, il y a une image très paternelle et très militaire. Dans quel autre métier on dit « oui, chef » ? Dans l'armée, on dit « oui, chef ». Effectivement, c'est un métier qui est très pénible. Et quand on a des étoiles, il y a une pression supplémentaire. J'ai quand même eu beaucoup de témoignages sur les étoilés. Pour une autre raison aussi, j'ai eu beaucoup de gens qui ont laissé un témoignage quand leur chef ou leur ancien chef a eu une étoile. Ou que le ou la chef à une émission de télé, et dans le jury d'une émission, c'est la goutte d'eau. Et j'ai eu ça comme phrase souvent. Il y a des gens qui voulaient nommer l'auteur des violences qu'ils ou elles ont subies, et quand je leur ai dit que j'allais devoir faire un contradictoire, c'est-à-dire appeler la personne mise en cause pour lui dire « vous êtes accusé de telle, telle, telle chose », sans nommer la source, évidemment, les gens ont dit « ah, mais il va m'en connaître ». J'ai dit « bah, il y a des chances ». Beaucoup de gens ont dit « ah oui, mais non, bah, je suis dans le métier encore, je vais me faire griller ». Il y a aussi des gens qui voulaient absolument pas nommer, ils sont encore terrifiés. Il y a déjà eu des enquêtes. Pour autant, rien ne change.
Du coup, moi, j'ai un rapport un peu professionnel à la cuisine parce que c'est un endroit où j'ai envie de travailler à côté de notre métier d'éditeuriste et d'artiste. Mais c'est vrai qu'il y a une culture familiale chez moi où la cuisine, ça a toujours été hyper prégnant. Pourquoi j'utilise des mots que je ne sais pas dire. Où en gros, ma mère travaillait dans la restauration, mon arrière-grand-mère avait travaillé dans un restaurant qui, bon, grand dommage, mais on a perdu toutes ses recettes. Mais donc du coup, on a un peu cette culture où même on se parle avec des termes de restaurant, on se dit allô, chaud, ou ce genre de truc, pas de voyage à vide. Pour moi, la cuisine, c'est ma mère qui essayait de nous apprendre quand on était petits par le geste, justement, parce que son père lui avait appris comme ça. Sauf que nous, on était trop petits et pas assez de concentration, donc on regardait pas. Et j'ai appris à cuisiner tout seul, à faire cuire un œuf et à jeter des pâtes au plafond pour savoir si c'était bien cuit. Mais aujourd'hui, je revois ces gestes que ma mère m'avait forcé à regarder sans toucher. Et pour moi, maintenant, c'est vraiment ça. C'est manger, faire à manger pour d'autres, penser à des recettes, c'est ma mère, mon arrière-grand-mère. Par contre, le côté inventif, c'est plus la cuisine expérimentale, artistique et un peu professionnelle parce qu'il y a tellement de choses qui ont été essayées dans les grandes cuisines ou dans les cuisines tout court d'ailleurs, que c'est intéressant de regarder et de s'y inspirer.
Pendant toute cette émission, on a évoqué le sacré. Et qu'est-ce qu'il en est du beau aussi ? Est-ce que pour vous, c'est important de présenter de manière... de faire des belles assiettes pour vous-même déjà ? Est-ce que ça fait partie aussi de soins de se concernant ? Et quand vous faites de la cuisine pour les autres, est-ce que c'est important aussi le côté visuel, je dirais ?
Moi, je crois que c'est un peu important.
Oui.
Ouais, on aime bien les jolies choses.
On aime bien les jolies choses.
On aime les pépettes, tu vois, on aime bien les jolies choses. Typiquement, on fait des livres, donc on aime bien le graphisme, on aime bien les jolis objets édités. On aime bien les belles couleurs. Il y a un peu un travail, en tout cas un questionnement qu'on a, je pense. En fait, quand on pense aux belles assiettes, on pense souvent à des assiettes très épurées, très minimalistes, avec très peu de choses dedans. Nous, on aime bien les belles quantités, on aime bien manger. En tout cas, quand on nourrit les autres, on aime bien que ça soit copieux. Et du coup, il y a toujours une recherche un peu entre une assiette très, très léchée, très jolie, et la grosse plâtrée. Et je pense qu'il y a un entre-deux à trouver. Mais en tout cas, nous, on aime autant les jolies assiettes hyper graphiques comme les grosses casseroles et les grosses marmites.
Ça, le aussi,
c'est trop notre kiff. Les grandes tablées avec les assiettes dépareillées de mamie et de l'assaut du coin. C'est un peu notre cam.
C'est vrai qu'on joue pas mal sur les deux. Oui, moi j'aime bien essayer de reproduire des gestes que j'avais vus du coup avec ma mère ou avec des amis. Et du coup essayer de faire des assiettes délicates, mais en même temps c'est tellement bien d'amener une énorme marmite de risotto, de servir à la louche et de râper le parmesan directement dessus. Ouais. Et donc du coup quand on se fait des repas, là c'est pas mal le cas à FIAC où on essaie de faire des menus ensemble pour voir ce que ça donne nos assiettes. Et on jongle pas mal là-dessus, ouais, sur des petites assiettes un peu délicates et à côté une assiette un peu plus... gourmande tout en gardant un peu cette esthétique et essayer de mixer un peu les deux, c'est fun. Moi je trouve qu'on s'amuse bien là-dedans.
De toute façon, il y a toujours deux moments dans le repas, hein.
Ouais,
le premier
clairement.
Où on fait le mini dressage et après on est là, t'as la dalle,
ouais,
et on se
dalle.
Resserre et là l'assiette elle est moche et on l'a fini en deux secondes alors que la première c'était hyper délicate. Et même le fait que l'assiette soit dressée délicatement, on tient les couverts différemment, j'ai l'impression. Mais là on mange tout soigneusement et quand on se resserre et que l'assiette est pas si belle, on change de manière de manger en fait. Donc l'esthétique de l'assiette, elle change notre rapport aussi à la manière de se tenir, la manière de consommer, quoi.
La sociologie de l'assiette.
Pour le coup, on fait une petite recherche sur la politique du geste. Donc du coup, l'impact de ce genre de choses sur notre manière de manger, notre manière de faire, notre manière de penser la société, qui pour nous passe par le manger.
Carrément, puis manger avec une cuillère, par exemple, ou une fourchette, c'est pas la même chose.
Ouais, puis il y a tellement de gestes différents qui ont des portées, des messages ou une histoire. Et c'est un peu le sujet de recherche que Kat est en train de monter en parallèle dans son mémoire sur le geste et la cuisine. Et voilà, c'est un travail en cours, mais on a trop hâte de voir à quoi ça ressemble. Et puis, je pense que ça va être édité par Yayaï dans quelques temps, quand il sera prêt.
Et pour conclure, en fait, pourquoi vous pensez que là, il continue déjà de vous fasciner, vous, perso ?
Pour moi, c'est vraiment ce qu'on disait au départ, cette notion très populaire de l'ail qui fait que quand on n'a pas grand-chose à manger, mettre de l'ail dedans, ça donne du goût. Ça donne du goût à la vie, en fait. Ça fait qu'un repas pris entre deux heures de taf ne sera pas juste du riz au beurre.
Ouais, et puis... Dès que quelque chose a un lien avec des croyances populaires, avec des mythes, en fait, le mythe, il a de propre de pas être explicable. Et en fait, quand il n'y a pas d'explication, bah, les gens deviennent obsédés et ont envie de trouver des explications et continuent de rechercher. C'est ça qui est chouette, c'est que du coup, en fait, là, à notre époque, en 2026, il y a encore des livres et des théories qui sortent autour typiquement des vampires. Il y a des séries culture pop, les Twilight mais oui, je t'avais dit que je citerais Twilight à un moment. Les Twilight et Tutti Quanti. Enfin voilà, en fait, une croyance populaire et une croyance mystique, c'est un puissant fond, en fait, d'images et d'imagerie pop. Et donc, en fait, ça n'a pas de fin tant qu'on n'y trouve pas d'explication, quoi. C'est ça qui est chouette. Et c'est pareil, je pense, avec là, il y a tellement d'origines diverses. Que c'est pas prêt de s'arrêter, je pense. On a notre premier livre en dépôt-vente depuis très peu de temps à la librairie Liberni à Carmo, mais également à notre chère Terra Nova à Toulouse. Donc n'hésitez pas au rayon cuisine ou au rayon micro-édition. On a aussi un petit compte Instagram, c'est aiaiai.édition au pluriel. Et on y met souvent des appels à texte, nos actus et des petites images de ce qu'on fait en ce moment.
Kat, Luca, merci.
On peut citer notre petit marque-page. Où on écrit « On pense que la cuisine est politique car le droit au pain, donc le droit au pain c'est une référence à Pierre Kropotkine, est une lutte perpétuelle, une croyance viscérale que l'accès à une nourriture saine et nourrissante devrait être un droit fondamental et gratuit. » Donc voilà, continuons de lutter pour le droit au pain.
Kropotkine qu'on salue bien sûr.
Si
tu nous écoutes.
Big up.
Big up.
Merci.
Bah, merci d'être venu. Merci pour votre dispo. À très bientôt.
Merci.
C'est pas un super-héros, Green Onion. C'est pas Green Lantern. Bon.
Non, c'est pas lui, mais c'est la saison.
Mais, ouais. Et oui, parce que c'est la. Voilà, si on doit en fait retenir une chose de cette émission, une information.
Manger de l'oignon vert.
Pourquoi ?
Parce que ça fait que vous aurez des petits sous toute l'année. Dans
voilà,
la
et
poche.
C'est la saison aussi, quoi.
Et c'est la saison.
C'est maintenant, quoi. Voilà, ouais, c'est la saison.
C'est now.
Bah, merci.
Merci à toi.
Bon retour et à très bientôt.
À bientôt.
Salut, au revoir, merci.